Les interviews du SEL, le service d'entraide et de liaison, selfrance.org.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle sur les actualités du SEL et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Paulin Ndiadia, qui est directeur général, responsable de projet à Banaya Kivuvu, qui est une association partenaire du SEL en République démocratique du Congo. Monsieur Paulin, bonjour.
Bonjour.
Alors, le SEL soutient différents projets avec l'association dont vous êtes le directeur général, mais nous allons nous concentrer sur l'un d'entre eux qui est assez exceptionnel, se situe dans la région de Boundé. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un projet mis en place pour accompagner les jeunes femmes victimes des abus divers. Donc, ce projet est né du fait que, avec notre expérience dans la ville de Kinshasa, déjà avec les centres Bongona et Mozindo, Bomo en sigle, où nous accompagnons ces jeunes femmes, la majorité de femmes rencontrées dans les différents sites dans la ville de Kinshasa provenaient de la région du Grand Équateur. Et la plus grande majorité, c'était dans la ville de Boundé. Et c'est comme ça que nous sommes posés la question de savoir, mais comment la majorité de ces filles, ils prennent les embarcations de là jusqu'à dans la ville de Kinshasa, ils longent le fleuve Congo pour venir à Kinshasa, pour se prostituer, pour être victimes de différents abus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est alors que nous avons débarqué à Boundé pour faire des constats, et les constats étaient très amers, parce que, en fait, non seulement parce c'était culturellement la vie à Boundé, mais aussi c'était aussi difficile pour ces jeunes femmes de vivre beaucoup mieux dans cette ville et connaître de l'épanouissement. Voilà.
Donc c'était d'abord des jeunes filles que vous aidiez à Kinshasa, et puis vous êtes, pour ainsi dire, remontées à la source.
À la source du problème. Oui.
Alors, à la source du problème, vous dites que vous avez découvert quelque chose qui est lié à la culture. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer, parce que on pourrait se dire que ça doit être un problème lié d'abord à la pauvreté, mais c'est pas ce que vous avez dit.
Oui, à la culture, parce que en fait, cette région a été beaucoup privilégiée depuis très longtemps du fait qu'ils ont connu un président de la République qui leur avait tout facilité, et c'est une région où il y a environ 65% de la forêt équatoriale, donc des terres cultivables. Et aussi, du fait de la culture locale, la femme n'a pas de valeur. La femme n'a pas de valeur. De génération en génération, les gens ont appris cela. Donc, les hommes ne travaillent pas, bien qu'étant dans une région très où il y a des terres fertiles, mais les hommes utilisent les femmes comme leur source de revenus. Et donc, ils doivent pousser des femmes à se prostituer de différentes manières pour ramener de l'argent pour nourrir la famille. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu dans cette région. C'est comme ça que je parlais des aspects culturels. Mais à côté de cela, évidemment, du fait que les hommes ne travaillent pas, il y a l'aspect de la pauvreté parce que ils n'ont rien ramené. Et les femmes aussi n'ont pas autre chose à faire que de vendre leur corps pour amener de quoi manger à la maison.
Donc, vous êtes remonté à la source du problème. Vous avez trouvé le problème.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez fait, du coup?
Nous nous sommes dit, nous devons commencer par la sensibilisation et la conscientisation.
Ça marche, ça?
Oui, mais parce que dans notre première rencontre, nous avons dit, écoute, nous avons ciblé les groupes sociaux un peu plus influents de cette communauté pour expliquer le problème. Donc, nous avons dit, écoute, nous, on vient de Kinshasa, regarde ce que nous faisons comme travail, mais vos filles se retrouvent à Kinshasa pour ce métier de la honte. Et nous avons commencé à réfléchir avec eux. Et donc, nous avons dans cette rencontre beaucoup de personnes de la communauté qui étaient représentées, notamment le service de l'État, les services d'intelligence, les directeurs de la prison, il y avait les autres autorités policières, mais aussi les églises locales, parce que pour nous aussi, étant que chrétiens, on trouvait qu'il y avait une responsabilité de l'Église dans ce phénomène. Et après, nous avons trouvé que Ils connaissaient le problème, mais qu'ils n'avaient pas le moyen de l'éradiquer. Et après cela, nous avons dit, tiens, du fait que ce sont des jeunes femmes qui sont victimes de toutes ces choses, nous devons d'abord sauver ces âmes. Et nous avons commencé par conscientiser les victimes, donc les femmes, elles-mêmes, à prendre conscience de la réalité, mais à leur montrer qu'il y avait d'autres issues, il y avait d'autres possibilités de s'en sortir, notamment à se valoriser elles-mêmes et à prendre autre métier qui peuvent les valoriser, qui peuvent leur permettre de s'autonomiser au lieu de continuer ce métier de la honte.
Donc vous avez pu aider concrètement un certain nombre de femmes.
Exactement.
En leur apprenant quel genre de choses?
Lorsque nous avons eu des rencontres de femmes, c'est elles qui nous ont dit de quoi elles étaient capables. Beaucoup de femmes ont parlé qu'elles pouvaient apprendre beaucoup mieux la coupe-couture, et d'autres pouvaient apprendre la coiffure esthétique. Et d'autres femmes étaient simplement timides parce qu'elles ne savaient ni lire ni écrire, et que, voilà, elles manifestaient la volonté, justement, de relever leur niveau par l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, donc ce que nous appelons l'alphabétisation. Donc, c'est les trois secteurs dans lesquels nous avons évolué. Et pour la première promotion, nous avons eu une trentaine de femmes qui ont été formées et autonomisées.
D'accord. Et alors, du côté des hommes, est-ce que vous voyez un changement dans les mentalités suite au travail de sensibilisation que vous faites?
Alors, déjà, c'était difficile quand nous avons commencé à travailler avec les femmes, parce que c'est comme si on leur arrachait, leurs ouvrières, je sais pas, les personnes qui travaillaient pour eux. Et puis, nous avons dit, écoute, tiens, on va pas continuer à travailler avec les femmes sans conscientiser aussi les hommes. Donc, depuis cette année, grâce à l'appui du CEL, nous avons touché une couche de garçons, une couche très représentative, auprès de qui nous avons apporté de la sensibilisation pour combattre ce que nous appelons les masculinités toxiques que nous trouvons justement, qui sont à la base des différentes formes des abus et des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Nous avons eu une bonne partie quand même qui ont pris conscience et qui ont accepté de nous accompagner. D'ailleurs, là, c'était extraordinaire de voir qu'il y avait les groupes de jeunes de 18 à 35 ans qui ont été sensibilisés, qui ont pris l'initiative eux-mêmes de se constituer en petits groupes selon leur lieu d'habitation pour sensibiliser les autres jeunes, les autres hommes sur ces phénomènes, parce que c'était un frein pour le développement de la contrée. Donc, nous pouvons dire que nous avons vraiment des effets positifs de cette conscientisation et cette sensibilisation jusque-là.
Alors, au CEL, ces temps-ci, nous essayons d'amener notre public à réfléchir sur le sujet de la justice et de la pratique de la justice, comme, par exemple, cela nous est donné dans le fameux texte du prophète Michée qui dit Exactement. Que ce que Dieu demande de nous, c'est que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions humblement avec notre Dieu.
Amen.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement dans votre contexte et votre travail quotidien, pratiquer la justice?
Pratiquer la justice, déjà pour nous, c'est du fait que nous sommes en train de combattre ce phénomène de marginalisation des jeunes femmes. C'est injuste que ces êtres créés à l'image de Dieu puissent subir des situations comme ça, et puis à l'égard des autres humains aussi. Et nous n'avons jamais cessé, d'ailleurs dans nos formations, on avait une partie vraiment biblique en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible, justement pour montrer aux hommes que Dieu est amour, il aime tout le monde sans distinction, et que nous, on n'avait pas le droit de discriminer les jeunes femmes. Mais aussi, on a eu à côté ce temps d'essayer de défendre en termes de justice aussi des victimes, en cherchant à les protéger contre tout autre donc harcèlement, justement. Et donc pour des personnes qui restaient insensibles à cette conscientisation, en tout cas, ils étaient passibles à des poursuites. Mais est-il que dans la région, il est difficile de compter sur la justice humaine qui est corrompue, etc. Mais de temps en temps, on devait lever le ton pour qu'on soit le plus juste possible, que ces jeunes femmes savent que le Seigneur les aime et que les autres personnes qui les abusent savent que c'était injuste de s'abuser aux femmes qui sont aussi des êtres créés à l'image de Dieu et qu'elles avaient le même droit que toute autre personne de s'épanouir et de, voilà, de progresser dans leur vie.
Qu'est-ce que vous diriez pour encourager, pour exhorter les chrétiens, peut-être les chrétiens en France d'ailleurs, pas uniquement par rapport à votre contexte, mais à avoir une pratique qui soit une pratique de justice face aux personnes qui soit vivent dans une situation de pauvreté extrême, soit vivent dans une situation d'oppression extrême?
Alors, ce que moi je dirais aux chrétiens, c'est d'abord de prendre conscience qu'il y a dans des différentes régions du monde des êtres créés à l'image de Dieu qui souffrent, qui sont marginalisés, qui sont victimes d'abus et qui, parfois, ils deviennent incrédules, ils ne croient pas à l'amour de Dieu. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui parle en leur faveur. Et je pense que du fait de comprendre cela, ça doit nous amener à regarder la situation en face, à parler, à plaider chacun dans la mesure du possible, à ne pas garder ce silence coupable, mais aussi pas seulement parler, mais beaucoup plus adresser de prières à Dieu en faveur de ces personnes qui sont connues ou qui ne sont pas connues, mais de savoir que dans une certaine région du monde, il y a des femmes qui sont violées, des femmes qui sont victimes des différents abus et que de penser ne fût-ce qu'à eux dans la prière sans les connaître, et ça sera déjà quelque chose de très important à accomplir étant que chrétien. Mais au-delà de ça, il y a des chrétiens qui sont dans des postes de responsabilité et qui ont la possibilité de faire des plaidoyers en faveur de toutes ces personnes qui sont malheureuses dans le monde. Et donc, je pense qu'ils ne doivent pas rester silencieux. Ils doivent, avec l'aide du Seigneur, lever leur voix pour plaider en faveur de tous ces pauvres.
Et vous êtes un témoin d'une certaine façon qu'il y a des choses qui peuvent vraiment changer.
Exactement. Nous sommes très confiants et vraiment témoins que ça peut changer parce qu'aujourd'hui, il y a déjà du fait, je l'ai dit ici, du fait de voir la première sensibilisation qu'on a fait avec des jeunes garçons, nous avons compté recevoir moins de garçons déjà. Parce que on apprenait par-ci, par-là que beaucoup ne seraient pas motivés à venir de parler de la prévention des violences ou des, voilà. Mais là, nous avons eu un peu plus que ce que nous avions prévu. Donc, nous avons prévu dans le programme 40 garçons, mais on a eu 99 garçons qui ont participé. Et ça, c'est Dieu qui peut toucher les cœurs. C'est Dieu qui peut vraiment amener à apporter cette transformation profonde dans la vie de la communauté. Et donc, nous sommes très confiants aussi dans ce que nous faisons, dans la grâce que le Seigneur nous a faite du fait de rencontrer ces personnes, mais nous sommes aussi très confiants au Seigneur qui nous accompagne dans cette mission.
Merci beaucoup, Monsieur Paul Ndiadia, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et donc, pour les auditeurs qui sont intéressés d'en découvrir plus sur les projets de développement soutenus par le CEL ou bien de ce qui est organisé dans le cadre de la sensibilisation sur le thème de la pratique de la justice, eh bien, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.celfrance.org. Nous avons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.